Bonjour à tous. Je suis vraiment très content d'être parmi vous ce matin. Quand Philippe m'a envoyé un message pour me demander s'il y avait quelqu'un de disponible pour prêcher pendant ses vacances, je me suis dit, allez, ça fait longtemps. Je suis très heureux de vous voir durant ces derniers mois. C'était plein de défis pour nous, mais je suis vraiment très content en fait d'être parmi vous et de vous voir tous ensemble réunis. Et avant de commencer, je veux simplement repriez pour ce temps, que le Seigneur puisse bénir sa parole et qu'on puisse être à l'écoute. Notre Dieu, notre Père, on est reconnaissant d'être ce matin réunis, nous, ton Église, et d'être à l'écoute de ce que tu as à nous dire. Que tu puisses ouvrir nos cœurs, que nous puissions être attentifs à ton enseignement, même s'il vient confronter notre idée du monde, notre manière de vivre, que ce que nous puissions ressentir dans notre cœur puisse être soumis. Que nous puissions nous repentir de nos péchés et placer notre foi en toi, dans le nom de ton Fils. Amen. Alors, lorsque j'étais stagiaire à Gap, j'ai dû organiser une semaine d'évangélisation. On prévoyait énormément d'événements, donc il fallait être vraiment au taquet. Il y avait une exposition d'art avec une conférence, un vernissage, etc. Il y avait un concert de musique avec un groupe qui venait d'une autre ville. Il y avait un culte d'évangélisation le dimanche avec un barbecue, etc., etc., et plein d'autres événements durant cette semaine. Et c'était moi qui étais responsable de ça. Donc, il fallait vraiment que je sois au taquet. Il y avait même un groupe d'étudiants de l'Institut biblique à Bruxelles, donc de Belgique, de l'IBB, qui devait y participer. Et pour le premier jour, j'avais prévu une formation à l'évangélisation à l'ensemble de l'église. J'avais fait une annonce, et c'était mon prof de l'IBB qui devait le faire. Et lorsque on arrive pour récupérer l'équipe à l'aéroport, après quelques heures de trajet, je vais dire à mon prof, juste pour être sûr, parce que la formation avait lieu dès qu'on arrivait sur place, je lui dis, c'est bon pour la formation, tout est ok. Et il me regarde et il me fait, mais quelle formation? Je fais, la formation à l'évangélisation que tu étais censé faire. Et il me dit, non Nathan, tu m'as jamais rien dit. Et du coup, j'étais là, bloqué, sans solution, et catastrophe. Des personnes de loin, de l'église qui habitait un peu plus loin, étaient venues. Et je devais dire, en fait, qu'il n'y avait pas de formation. Il n'y avait rien. Mon prof m'annonce quelques minutes avant la formation qu'il n'y a rien. J'étais sûr de lui avoir envoyé un mail. Il a vérifié et dit non, rien du tout. Ce jour-là, en fait, j'avais absolument rien maîtrisé. Et c'était le départ pour moi de cette fameuse semaine. Heureusement, tout le reste s'est bien passé. Dieu a fait grâce. Mais peut-être que toi aussi, tu as été dans des situations où tu ne pouvais rien maîtriser. Un événement aléatoire qui arrive sans crier garde. Alors parfois, l'événement peut être positif. Ça peut être une grossesse inattendue. Ça peut être une guérison miraculeuse ou une promotion inespérée. Mais parfois, ça peut être des événements plus négatifs, n'est-ce pas ? Des invités de dernière minute, le repas n'est pas prêt, il est 19h. Un travail à rendre pour le lendemain, de 8h, travail long, avec le chef qui me prévient à 16h. Des vacances annulées pour cause de grève, de train, d'avion, c'est récurrent ces derniers temps, n'est-ce pas ? J'ai une pensée particulière pour tous les touristes qui fuient l'île de Rhodes en Grèce en ce moment parce qu'il y a un incendie. Imagine ces gens qui avaient prévu des vacances extraordinaires. Ça devait être les vacances de l'année, ils ont mis de côté toute l'année. Une belle île, des beaux paysages, la plage, et patatras, des incendies. On doit fuir. C'est chaotique. Tout tombe à l'eau. La vie a son lot d'incertitudes, n'est-ce pas ? Et c'est ce que j'ai voulu mettre en relief ce matin dans notre prédication que j'ai intitulée « Au secours, je ne maîtrise rien. Au secours, je ne maîtrise rien. » Et qu'est-ce que la Bible a à nous dire ? Qu'est-ce que la Bible a à te dire et à me dire par rapport aux circonstances aléatoires de la vie ? Eh bien, l'Ecclésiaste a réfléchi à ce sujet. Et je vous invite du coup à lire avec moi Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3, Prenez vos Bibles, Ecclésiaste chapitre 3. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne? J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a mis même dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie, et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit, et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui existera. Et Dieu ramène ce qui est passé. J'ai encore vu sous le soleil qu'à l'endroit désigné pour le jugement se trouvait la méchanceté, qu'à l'endroit désigné pour la justice régnait la méchanceté. Je me suis dit dans mon cœur, le juste et le méchant, c'est Dieu qui les jugera, car il y a un temps pour toute activité et pour tout ce qui se fait. Je me suis dit dans mon cœur à propos des humains que Dieu les met à l'épreuve pour qu'ils voient par eux-mêmes qu'ils ne sont que des bêtes. En effet, le sort de l'homme et celui de la bête sont identiques. Ils meurent tous les deux. Ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, puisque tout n'est que fumée. Tout va au même endroit. Tout a été fait à partir de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des humains monte vers les hauteurs et si le souffle de la bête descend dans la terre? J'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ce qu'il fait. Voilà quelle est sa part. En effet, qui le ramènera pour qu'il voie ce qui sera après lui? Alors avant qu'on continue, quelques éléments de contexte. On voit dans les premiers chapitres du livre, le Kohelet, donc c'est l'autre nom pour lequel l'Ecclésiaste, qui développe en fait la thèse suivante. La vie est comme un vendeur malhonnête. Elle promet beaucoup, mais elle ne tient pas ses promesses. La vie est comme un vendeur malhonnête, elle promet beaucoup, mais elle ne tient pas ses promesses. Exactement comme moi, lorsque j'ai promis une super formation à l'évangélisation à l'église, mais qu'au final, il n'y a rien du tout. Rien du tout. C'est décevant. N'est-ce pas? Décevant. Sylvain Romerowski traduit Ecclésiaste 1, verset 2, comme ceci. Décevant au plus haut point, dit le Kohelet, l'Ecclésiaste. Tout est décevant. Et comme cette vapeur que vous pouvez voir dans l'image qui s'échappe de cette tasse de thé. Tout n'est que fumée. En un instant, ça disparaît. Et donc le Kohelet va passer au crible la vie humaine pour démontrer cette thèse qu'il a donnée au chapitre 1. Et c'est ce qu'on voit au verset 2, n'est-ce pas? Chapitre 2, pardon, c'est ce qu'on voit au chapitre 2. Est-ce que les richesses donnent de la consistance à cette vie? Est-ce que les plaisirs de la vie donnent de la consistance à cette vie? Est-ce que mon travail donne de la consistance à cette vie? Est-ce que la sagesse donne de la consistance à cette vie? Est-ce que le bonheur donne de la consistance à cette vie? Bien, le Kohelet répond non. Non, tout cela n'est que fumée. Si vous regardez au chapitre 2, verset 19, tout cela n'est que fumée. Verset 23, tout cela n'est que fumée. Verset 25, tout cela n'est que fumée. Et pourquoi ce monde est-il si inconsistant? Dérisoire, illusion. Ecclésiaste 3, verset 14 nous dit: j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait, fera, durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit. Et point important, que Dieu agit de cette manière, afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Pourquoi ce monde est si inconsistant? C'est Dieu qui agit de cette manière pour qu'on éprouve de la crainte devant lui. Et de quelle manière Dieu agit pour qu'on ait de la crainte devant lui? Bien, de deux manières, ce qu'on va voir dans notre texte. Je ne suis pas maître des circonstances. Et puisque je ne suis pas maître des circonstances, ça m'amène à craindre Dieu. Je ne suis pas maître des circonstances. On voit au chapitre 3 que le Kohelet continue ses réflexions sur la condition de l'homme dans le monde. On le voit au verset 1. Verset 1, il dit: il y a un moment pour tout, un temps pour toute activité sur le ciel. Et il utilise en fait cette expression fétiche qui revient à plusieurs reprises dans l'ensemble du livre. On le voit aussi au verset 16, toute activité sous le ciel ou sous le soleil. Et en fait, par ces mots, l'auteur du livre est en train de dire, est en train de désigner en fait l'ensemble de l'expérience humaine, c'est-à-dire les choses qu'on peut faire, expérimenter, vivre, désirer en tant qu'être humain. Et c'est d'ailleurs la base de sa réflexion. C'est ce qu'il dit au chapitre 1, verset 13. « J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. » En fait, l'ensemble de son livre a ce fil rouge. Je regarde ce qui se fait sous le ciel. Je regarde ce que vivent les êtres humains au jour le jour. Et au chapitre 3, le Kohelet s'interroge à travers un petit poème, versets 1 à 9, sur ce qui est commun à l'expérience humaine. Et qu'est-ce qui est commun à l'expérience humaine? Comme ce sablier là, c'est le temps. Le temps. Le temps qui s'écoule, qu'on ne peut pas rattraper. Et plus précisément, c'est le moment opportun. Le bon moment. Et tout le monde connaît ce passage, n'est-ce pas? Même dans la culture française, on connaît tous ce passage. C'est devenu un proverbe populaire. Il y a un temps pour tout, verset 1. On l'utilise lorsqu'on doit mettre un terme aux soirées entre amis. Ah, tu sais, je dois rentrer, il y a un temps pour tout. On le dit aux enfants lorsqu'ils doivent aller au lit, donc c'est fini la télé. Ah, il y a un temps pour tout. Ou qu'on doit se mettre au travail après s'être bien reposé. Ah, c'est bon, il y a un temps pour tout, on s'est bien reposé. Allez, maintenant, il faut travailler. Mais ce poème sur le temps et sur les circonstances, est-ce qu'il est bien compris? Est-ce que ces versets 1 à 9 sont bien compris? Et on voit souvent ce texte comme une invitation à bien discerner le temps des choses. Et c'est vrai, la Bible, à plusieurs reprises, m'invite à faire attention au bon moment pour dire la bonne chose ou pour agir de la bonne manière. On le voit dans Proverbe 15, verset 23. On éprouve de la joie à bien répondre, à dire une parole au bon moment, et qu'une parole dite à propos est agréable. Donc c'est faire preuve de sagesse, d'agir au bon moment. Mais dans notre texte, le Kohelet vise autre chose. Il vise autre chose. En fait, le poème, lorsque tu le regardes, tu verras qu'il est construit autour de couples de mots qui sont opposés pour désigner le cycle d'une vie. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Verset 2. Celui d'une plante. Un temps pour planter. Un temps pour arracher ce qui a été planté. Toujours verset 2. Il parle du bien et du mal qu'on peut commettre ou subir. Verset 3. Il y a un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour démolir, un temps pour construire. Il montre les sentiments qui sont possibles dans les interactions que je peux avoir les uns avec les autres. Verset 5, il y a un temps pour embrasser et il y a un temps pour s'éloigner des embrassades. Et il utilise aussi des nombreuses images pour parler de l'activité humaine. Au verset 5, il parle d'un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Et ce verset un peu obscur désigne probablement le temps où, à l'époque, pour préparer un champ, et c'est encore le cas aujourd'hui, on doit enlever des pierres, l'activité humaine. Et lancer des pierres, ça veut probablement dire saboter le travail de quelqu'un d'autre. Le Qohélète parle aussi des biens qu'on possède, verset 6. Un temps pour chercher, un temps pour perdre. N'est-ce pas lorsqu'on veut partir le dimanche matin et qu'on cherche les clés de la voiture. Il parle aussi de l'attitude personnelle selon les circonstances, verset 7. Il y a le deuil, déchirer ses vêtements. Il y a un temps pour le deuil. Il y a un temps aussi pour savoir quoi en parler, on l'a déjà dit. Il parle aussi, verset 8, des sentiments qui peuvent être amicaux, l'amour, la paix, ou hostiles, la haine, la guerre. En gros, toutes les activités, toutes les circonstances, les moments ou les temps, bonnes, mauvaises, joyeux, tristes, amicales, inamicales, tout ça s'est résumé dans ce concentré, dans ce petit poème que le Qohélète donne pour parler de l'expérience humaine. Chaque chose a sa période, chaque chose a son temps, son début, sa fin, son apparition, sa disparition. Et quelle est sa conclusion? Quelle est la conclusion du Qohélète? Est-ce que ces expériences, est-ce que ces circonstances, est-ce que ces moments vont donner plus de consistance à ma vie humaine? Un peu comme l'existentialisme de Jean-Paul Sartre. Vivre des choses, ça me permet d'avoir plus de consistance, de me sentir vivant. Est-ce qu'elle remplace la vapeur? Non. Verset 9. Quel est l'avantage? Celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne? Non. C'est futile de construire quelque chose de solide. Ça ne sert à rien de bâtir un empire, de se donner de la peine durant notre existence, parce qu'on va mourir. Verset 19. On va mourir. Le sort de la bête est identique à celui de l'homme. En effet, le sort de l'homme et celui de la bête sont identiques. Ils meurent tous les deux. Pour le Qohélète, en fait, la vie humaine ne vaut pas mieux que celle d'un animal. Parce que, in fine, comme un chien, comme un chat, comme un rat, comme l'oiseau qui chante, en fait, je vais mourir. Et je le sais. J'ai appris récemment que le père d'une amie qui était en bonne santé a fait de multiples AVC et qu'il a perdu des facultés physiques et cognitives probablement. C'était soudain. Personne s'y attendait. Cette amie a dû venir à la hâte, lâcher son travail pour prendre soin de son père. Je suis désolé. Je sais que je suis en train de plomber l'ambiance. Je pense que si tu es venu ce matin, tu ne t'attendais pas à quelque chose d'aussi pessimiste. Mais c'est un message nécessaire, les amis. Si tu places ton espérance dans cette vie, comme on l'a chanté en fait, si tu places ton espérance dans cette vie, sache que tu la places dans de la fumée. Si mes priorités, mes attentes sont principalement fondées, basées sur ce que cette vie peut m'offrir, études, travail, mariage, famille, richesse, sagesse, et j'en passe, je suis à plaindre parce que tout ça, c'est futile. Je ne maîtrise aucun temps, aucune circonstance, aucun moment propice. Je ne maîtrise rien, en fait. Je l'ai subi.
Est-ce que j'ai décidé du temps de ma naissance? De la date?
Est-ce que je déciderai du temps de ma mort? On se dirige tous vers le cercueil. Non.
Ecclésiaste 9, verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas réservée aux plus rapides, ni la guerre aux hommes vaillants, ni même le pain aux sages, la richesse aux intelligents ou la faveur à ceux qui ont de la connaissance. En effet, ils dépendent tous des circonstances favorables ou non. C'est vrai, n'est-ce pas?
Peut-être que tu penses aussi, mais Nathan, si je crois en Dieu, ma vie a plus de sens, n'est-ce pas?
C'est pour les personnes qui ne croient pas en Dieu.
Okay, leur vie n'a pas de sens, mais nous on croit en Dieu, on se réunit le dimanche matin, dimanche après dimanche, ça a plus de sens.
Eh bien non. D'après le Cohélète, non. Parce que Dieu n'est jamais éloigné de son esprit, il est omniprésent, il en parle. La perspective d'être croyant ne change pas cette vie futile, dérisoire, parce que c'est Dieu qui en est l'auteur. C'est lui qui a mis ce monde dans la consistance, et ce, afin qu'on le craigne. Puisque je ne maîtrise pas les temps et les circonstances, je dois donc craindre Dieu. Je dois donc craindre Dieu.
Dieu a voulu que les choses soient ainsi. Regardez avec moi verset 10 et le début du verset 11. Il observe. Et voici son constat, j'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. C'est lui qui maîtrise le temps. C'est lui qui maîtrise les circonstances. C'est lui qui tient le chronomètre de ma vie dans sa main. C'est lui qui appelle le bonheur. C'est lui qui appelle le malheur. La pluie ou le beau temps. Rien ne lui échappe. Dieu est totalement souverain sur mon existence. L'homme est incapable de discerner le plan de Dieu, de discerner son action ou sa manière d'agir. C'est ce qu'il dit, verset 11. Même si l'homme ne peut comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin, ça m'est inaccessible. Il m'est impossible de dire à Dieu ce qu'il doit faire pour que j'obtienne ce fameux bonheur. Et c'est un petit avertissement pour moi, n'est-ce pas, pour nous en tant que chrétiens, parce qu'on a tendance, en fait, à ce que nos prières soient comme des actes de « Eh, Seigneur, viens, regarde, viens, regarde, c'est comme ça que tu dois faire dans ma vie, hein, parce que là, je galère un peu, c'est comme ça que tu dois faire. » Mes prières ne doivent pas être orientées pour que Dieu agisse selon mes attentes, mes circonstances, pour ce monde. Je dois tout mettre sous sa volonté de sorte que je puisse dire comme le Christ, que ta volonté soit faite. Et pourquoi on agit de cette manière? Parce que l'être humain aspire à un monde meilleur, n'est-ce pas? Verset 11 toujours. Il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Et souvent ce verset est mal compris. Je l'ai vu beaucoup utilisé en évangélisation pour dire que chaque personne sait qu'elle vivra éternellement. Mais c'est pas exactement ce que le Cohélète est en train de viser. Il veut simplement dire, en fait, pour que chaque homme, chaque femme aspire à un monde meilleur, il a mis en nous la pensée de l'éternité, c'est-à-dire il a mis en nous l'espoir, l'espérance d'avoir quelque chose de solide, quelque chose qui dure éternellement. Si tu fais un micro-trottoir dans la ville et que tu poses des questions aux personnes, qu'est-ce que tu voudrais pour le monde? Ils diraient qu'il y ait la paix, quelque chose qui dure, qu'il n'y ait plus de maladie, quelque chose qui dure. On désire tous quelque chose de solide, quelque chose de consistant, quelque chose de meilleur. Par exemple, au verset 16, on est attristé lorsque la justice n'est pas rendue. J'ai encore vu sous le soleil qu'à l'endroit désigné pour le jugement se trouvait la méchanceté, et qu'à l'endroit désigné pour la justice régnait la méchanceté. J'ai vécu cette année une expérience assez douloureuse par rapport à la justice, où là où je m'attendais à voir de la justice, j'ai vu de la méchanceté.
Et on se demande alors, est-ce que Dieu agit dans le monde ? La question de l'injustice dans le monde a rendu perplexe beaucoup de croyants, et peut-être que toi aussi tu es perplexe. Est-ce que Dieu est juste ? Est-ce que Dieu agit dans le monde ? Psaume 73, verset 12, réflexion d'Azaph. Voici comment sont les méchants, toujours tranquilles, ils augmentent leur richesse, ils vivent bien. Nous, Seigneur, on souffre, on croit en toi, on se moque de nous. Pourtant, voici ce que dit le Qohélète, au verset 17. Je me suis dit dans mon cœur, le juste et le méchant, c'est Dieu qui les jugera. Car il y a un temps pour toute activité et pour ce qui se fait. Même si tu as l'impression, même si on a l'impression que l'injustice augmente dans le monde, Dieu mettra un terme. Ici, il reprend la même expression qu'au verset 1 pour montrer que Dieu voit les injustices, mais qu'il est souverain, en fait, sur les injustices. Il y a un temps pour toute activité, même pour l'injustice. Dieu agira en son temps, au moment propice, et d'une manière qu'on ne saisit pas forcément. Le désir d'obtenir quelque chose de solide, cette pensée d'éternité ne sera malheureusement jamais obtenue ici-bas. En fait, le mieux qu'on puisse faire, c'est de profiter des moments de bonheur que Dieu nous donne sur cette terre. Verset 12 et verset 13, j'ai reconnu que le seul bonheur de l'homme consiste à se réjouir et à bien agir pendant sa vie. Si quelqu'un mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, ça c'est un cadeau de Dieu. Le Seigneur nous donne, malgré cette vie sans consistance, de quoi profiter jour après jour. Mais je ne suis pas la main qui maîtrise la roue du temps. On a souvent tendance à voir ce livre de l'Ecclésiaste comme étant quelque chose de profondément pessimiste. Mais en fait, non. Ce livre est profondément réaliste. Le Qohélète est lucide. Écouter son constat, c'est savoir comment se comporter avec sagesse face à la désillusion, face à la frustration, face à la vapeur de ce monde. Je me souviens d'une expérience au travail où j'avais un rôle de responsable dans mon ancien travail. Et quelque part, je faisais un peu le travail d'un cadre sans avoir le statut. Et il y avait des discussions autour des promotions et j'espérais vraiment, en fait, avoir le statut de cadre parce que je faisais vraiment le travail d'un cadre. Et finalement, non, j'ai rien eu à cause de la conjoncture économique. Déception, désillusion. Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là ? Est-ce qu'on envoie tout balader ? Est-ce qu'on travaille moins bien ? C'est vrai, cette tentation. Est-ce qu'on se comporte sans sagesse ? Bien non, en fait. Le livre du Qohélète, ce chapitre 3, t'invite, malgré la vapeur de ce monde, à te comporter avec sagesse. La vie a son lot d'illusions. Parfois, le mariage peut être une illusion. Une relation amicale peut être une illusion. Les relations fraternelles dans l'église, parfois on peut être déçu. Mais est-ce une raison pour manquer de sagesse ? Non. Parce qu'il faut craindre Dieu dans tout ça. Alors que retenir ? Que retenir de tout ce qu'on vient de voir ? Trois applications. Je ne m'attends pas à ce monde. Je ne m'attends pas à ce monde. C.S. Lewis, auteur bien connu d'ouvrages chrétiens et du monde de Narnia, a une image particulière par rapport à ce point d'application. Il fait une expérience où dans un bâtiment, dans un immeuble, c'est-à-dire un hôtel standard, on mettait deux groupes de personnes. Et à l'un des groupes, on disait qu'ils étaient dans une prison, et à l'autre groupe, on leur disait qu'ils étaient dans un hôtel luxueux, 5 étoiles. Et lorsqu'on est venu interroger les personnes, les groupes ne pouvaient pas communiquer, le groupe qui était dans une prison était très satisfait, en fait, de la nuit passée. Il disait, j'ai jamais vu une prison aussi bien, c'était vraiment excellent, je m'attendais pas à ça. Et le groupe qui croyait être dans un hôtel 5 étoiles, disait, c'est terrible, c'était vraiment horrible, je pensais pas qu'un hôtel 5 étoiles pouvait être aussi nul.
Les circonstances sont les mêmes, mais les attentes étaient différentes. En fonction des attentes que tu peux avoir dans ce monde, sachant que ce monde n'est que vapeur, n'est que fumée, ta déception peut être grande, très grande. Ne t'attends pas à ce monde. Ne t'attends pas à ce monde. Attends-toi à Dieu. Et même dans nos relations, ne t'attends pas à l'autre. Attends-toi à Dieu. Il y a un ami qui m'a partagé une histoire qui me disait, voilà, je rentrais le soir, je voulais faire plaisir à ma femme, j'ai décidé de lui faire à manger, et finalement, elle n'a pas aimé ce que j'ai fait. Ah, c'est dur, ça arrive ça souvent, n'est-ce pas? Et il m'a dit, mais en fait, si je l'ai fait, je l'ai fait pour le Seigneur. Et je te demande pardon, peut-être que j'ai pas assez écouté ou été attentif à ma femme pour savoir ce qu'elle aime ou ce qu'elle aime pas. Mais je l'ai fait d'abord pour le Seigneur et tant pis, la prochaine fois, je me rattraperai. Je m'attends pas au bien de l'autre. Je m'attends au bien de l'autre dans le Seigneur. Ça évite beaucoup de conflits. Deuxième point d'application, je crains Dieu quotidiennement. Je crains Dieu quotidiennement. Craindre Dieu, c'est accepter que Dieu a créé le monde d'une certaine manière que je ne comprends pas. Dieu dirige le monde d'une certaine manière que je ne saisis pas. Et du coup, craindre Dieu, c'est reconnaître qu'il maîtrise tout, qu'il tient lui le temps dans sa main, que je ne maîtrise rien et donc je ne cherche pas à le faire. Je ne cherche pas à maîtriser ma vie parce que ça ne sert à rien. Qui sait si demain, la vie n'apportera pas son lot de malheur? Et s'il y a bien une chose que je reconnais depuis que je suis père, c'est que j'ai des peurs que j'avais pas avant. Il y a des choses parfois que j'imagine. On est dans la rue, je dis « Oh, viens à côté là !» Ça n'arrivait pas avant. Et ça crée parfois de l'anxiété, des peurs irrationnelles. Parce que je suis conscient que je ne maîtrise pas la vie de mes enfants et le futur, ni ma vie personnelle, pour voir mes enfants grandir, qui est une grâce et qui est un bonheur. Mais qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Est-ce que je mets en place des sécurités? Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être sage. Mais est-ce que je surprotège? Non. Je fais confiance à Dieu. Je crains le Seigneur qui fait toutes bonnes choses en son temps. Craindre Dieu, c'est s'émerveiller devant sa grandeur, devant sa sagesse, tout en reconnaissant mon impuissance, en fait. J'ai une attitude humble. Je m'humilie devant Dieu. Craindre Dieu, c'est garder ses commandements, et c'est le message aussi du livre de l'Ecclésiaste que vous verrez dans les prochaines semaines. Craindre Dieu, c'est garder ses commandements en vue du jugement à venir, malgré la futilité de ma vie, malgré la vapeur. Est-ce que c'est une excuse pour que je fasse n'importe quoi? Eh bien non, parce que le Qohélète t'invite à faire le bien, verset 12. J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie. Craindre Dieu, c'est garder ses commandements en faisant le bien. Craindre Dieu, c'est vivre pour le monde consistant à venir. Et ça m'amène au dernier point d'application. J'espère dans le monde à venir. Le Christ est venu me racheter de la futilité de ce monde. Un jour viendra où le caractère vaporeux de ce monde va disparaître. Si je vis pour le monde à venir, alors ma vie actuelle prend tout son sens et elle prend de la valeur, non pas pour ce monde-ci, mais je crée un trésor pour le monde à venir. Et même les choses futiles, comme manger, boire, passer du temps entre amis, prennent du sens et de la valeur parce que je l'ai fait pour glorifier Dieu. C'est ce que dit Paul, n'est-ce pas? Faites tout pour la gloire de Dieu, que ce soit manger ou boire, parce que je vis pour le monde à venir. Le seul travail qui a de la consistance, mes amis, c'est ce que dit Jésus, amasser des richesses pour le monde à venir. Le seul travail qui a de la consistance, c'est le travail de l'évangile. C'est venir au culte le dimanche. C'est partager l'évangile dans les discussions après culte. C'est prier ensemble. C'est aller à l'étude biblique. C'est évangéliser, faire connaître le Christ.
c'est vivre dans la crainte de Dieu jour après jour, parce que je me prépare au monde consistant à venir. Et dans ce monde, ce que je ferai, j'en profiterai éternellement. Pour conclure, une citation, un bouquin qui m'a grandement bouleversé ces derniers mois. Je vous invite à l'acheter, à lire, elle est vraiment très très courte. C'est vraiment des méditations sur l'humilité. Et voici ce que dit Joël Cornus, l'auteur de ce bouquin. Au lieu de chercher à me convaincre que je suis dans le poste de pilotage et Dieu dans celui de l'assistant, Jésus invite ses disciples à reconnaître l'évidence. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de lui pour absolument tout. Nous avons besoin de lui pour absolument tout. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous invite à prendre un temps de silence. Notre Dieu, notre Père, nous reconnaissons notre impuissance devant toi. Nous reconnaissons, Père, notre orgueil. Nous reconnaissons que nous voulons être le pilote, que nous voulons tout maîtriser, alors que nous ne maîtrisons rien. Pardonne-nous, Seigneur. Nous te demandons pardon. Nous voulons nous repentir de cette attitude orgueilleuse. Nous voulons embrasser le modèle de vie que tu nous donnes à travers Jésus-Christ. Nous voulons, Père, te laisser. Toi qui es le maître du temps, des circonstances, nous voulons te craindre. Et nous voulons vivre pour toi jour après jour. Transforme notre intelligence, notre esprit, nos attentes, nos espoirs, pour qu'elles soient basées et fondées sur toi et non sur ce monde. Béni sois-tu parce que tu travailles et tu agis en nous par ton esprit. Dans le nom de ton Fils. Amen.